a accès aux promesses de Dieu. Elles sont accessibles pour lui. On peut s'emparer de ses promesses. Mais sinon, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Et tantôt, je vous ai parlé de John Newton, hein, qui était l'auteur d'un cantique, Amazing Grace, qui était marin, qui pratiquait le commerce des esclaves. Et j'ai relocalisé l'année. Je l'ai en 1748, au cours d'une traversée très agitée, provoquée par une énorme tempête. Il demandait à l'aide de Dieu. Est-ce que Dieu lui devait quelque chose, frères et sœurs? Il vend des gens qui sont créés à son image. Pour lui, ce sont des objets. Pour lui, c'est une façon de faire de l'argent. Il n'a peut-être jamais crié à Dieu de sa vie. Et Dieu, dans sa grâce, a tendu l'oreille. Il a regardé au cœur de John Newton. Il a tendu l'oreille. Et il s'est converti. Et comme j'ai dit tantôt, il a consacré sa vie. Eh bien, pour l'abolition de l'esclavage. Et deux ou trois ans avant de mourir, alors qu'il était presque aveugle et qu'il ne pouvait pratiquement plus lire, eh bien, un ami, un frère en Christ, avait pris l'habitude de déjeuner avec lui. Et à chaque fois, eh bien, il lui lisait la parole de Dieu. Et ensuite, John Newton faisait quelques commentaires sur le passage et ils prient ensemble. Et un jour, alors qu'il venait de lire les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Newton demeura silencieux pendant un long moment pour ensuite ajouter « Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que j'aimerais être, mais je peux dire que je ne suis plus ce que j'ai été autrefois, un esclave du péché et de Satan. Je peux de tout mon cœur m'unir avec l'apôtre Paul et reconnaître que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Vous êtes amen à ça ce matin? Ouais. En Jésus-Christ, on n'est plus esclave ni du péché, ni du diable. Frères et sœurs, toutes les bénédictions que l'homme reçoit de Dieu proviennent uniquement de sa grâce et de sa grande bonté. Toutes les bénédictions que vous recevez dans votre vie, c'est pas en fonction de quelque chose que vous avez pu faire pour toucher le cœur de Dieu, lui plaire, et qu'il vous en donne plus que les autres. Toutes les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu proviennent uniquement de sa grâce et de sa grande bonté. Psaume 31, verset 20. Et cette faveur que Dieu nous accorde gratuitement, nous ne le méritons pas, parce qu'un homme n'a aucun droit à la moindre pitié de Dieu. Vous voulez savoir en quoi consiste la grâce de Dieu? On en a parlé à l'étude biblique pendant quelques semaines. Les gens disent, oui, mais ceux qui meurent à l'extérieur, ils s'en vont où? Bon, je ne rentrerai pas dans les détails ce matin, mais ils s'en vont là où ils le méritent. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et ils sont jugés selon la loi de Dieu. Frères et sœurs, c'est nous qui méritons, qui recevons ce que nous ne méritons pas. Parce que nous aussi, on mérite ce que les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu vont aller passer l'éternité. En gros, on mérite l'enfer. Et dans sa grâce, un jour, on a entendu l'évangile de grâce. On a accepté cet évangile de grâce. Et dans sa grâce, Dieu nous a accordé son salut en Jésus-Christ. Frères et sœurs, on doit, à chaque dimanche, on devrait louer le Seigneur et être reconnaissant que quelqu'un s'est ouvert la bouche un jour, qu'on a croisé son chemin et qu'il nous a parlé de la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Parce que nous, si on va au ciel, si on va au paradis, si nous, on est destiné à passer l'éternité avec Dieu, on ne le mérite pas. C'est une grâce. Est-ce que vous réalisez tout ça? C'est une grâce. Et la mission de l'Église, c'est de sortir de son bâtiment pour aller annoncer cet évangile de grâce à ceux qui ne l'ont jamais entendu dans toute leur vie. Frères et sœurs, Dieu les aime autant qu'il nous aime. Toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu sont le fruit de la grâce et de la bonté de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu continue à déverser cette même grâce, c'est-à-dire à manifester cette même bienveillance dans nos vies, et ce, en toutes choses, car il n'y a rien que nous soyons. Il n'y a rien que nous ayons, il n'y a rien que nous fassions qui peut nous mériter la plus petite faveur de Dieu. Sinon, on entre dans l'idée de commencer à gagner notre ciel. Il n'y a rien. Tout est par grâce. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu n'est pas obligé de me pardonner. C'est par grâce qu'il me pardonne. Dieu n'est pas obligé d'effacer tous mes péchés. C'est par grâce qu'il le fait. Par grâce, Il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a aucune bonne action que je peux faire qui peut en effacer une mauvaise. Sauf le sang de Jésus-Christ. On dit amen à cette grâce ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile de grâce. Et on sait ce qui attend les gens qui n'ont pas connu cette grâce-là. Voilà pourquoi on doit annoncer la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on doit annoncer pleinement l'évangile. Les gens sont perdus s'ils ne goûtent pas et ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. C'est lui qui nous rend capables, en étant unis à Jésus-Christ, de pratiquer toute bonne œuvre pour que nous accomplissions sa volonté, que nous fassions ce qui lui est agréable. Hébreux, chapitre 13, verset 20. S'il y a bien quelqu'un qui avait compris jusqu'à quel point il était redevable à celui qui lui avait fait grâce, c'était Ruth. Tout comme Paul et Newton, elle pouvait dire « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Regardons ensemble l'expérience, à partir du verset 2, l'expérience de Ruth. À l'échelle nationale, elle était rejetée. On en avait parlé, je pense que c'est au mois de juin qu'on a commencé la série. On avait parlé au mois de juin. Eh bien, à l'échelle nationale, elle était rejetée. Verset 2. Remarquez au verset 2 qu'elle est appelée, identifiée comme étant Ruth, la Moabite. Comme s'il y avait une tache. Ruth, la Moabite. Moi, j'aimerais pas ça que je me présente sur la rue ou que vous me présentiez à quelqu'un ou que les gens me racontent « Hey, salut Jacques, le Québécois. Hein? » Salvatore, le Belge. C'est un faux Belge. Ça vous donne des arrière-pensées, ça, mais pourquoi est-ce qu'il me dit Jacques, le Québécois? C'est positif, c'est négatif? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée derrière ça? Est-ce que c'est parce qu'il pense que je parle pas bien français, que je parle pas français parce que j'ai un accent, qu'il me traite de Jacques, le Québécois? Mais frères et sœurs, quand on disait de Ruth, la Moabite, eh bien, c'était important parce que ça touchait pour un juif de dire que quelqu'un venait du pays de Moab. Cela avait une autre signification. Dieu avait dit que l'Ammonite et la Moabite ne seraient jamais admis dans l'Assemblée des fidèles. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de nourrir, de laisser les Juifs prendre de l'eau lors de la traversée, la sortie de l'Égypte. Frères et sœurs, le texte, si vous voulez aller voir dans Deutéronome 23:3, le texte nous dit que ils ne pouvaient jamais entrer dans l'Assemblée des fidèles, et ce, à perpétuité. Hey, Dieu avait fait une croix dessus, quoi! À cause de leur méchanceté, les Ammonites et les Moabites avaient été rejetés par Dieu et par la nation d'Israël. Il ne leur était pas permis de participer à aucun culte avec les Israélites. Maintenant, rapidement ici, moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est comme si Dieu donne une seconde chance à une Moabite qui est censée être rejetée, qui fait partie d'un peuple qui est censé être rejeté. Elle a accepté Jésus-Christ, elle a accepté Dieu, le Dieu de Naomi. Et Dieu lui permet, dans sa grâce, eh bien, de goûter à sa bonté. De par sa nationalité, Ruth faisait partie d'un peuple qui avait été jugé, condamné par Dieu. Et en cela, eh bien, nous représentons tous Ruth, frères et sœurs, avant que Dieu nous sauve. Nous étions tous des pécheurs condamnés par la loi de Dieu. À cause de notre façon de vivre qui était contraire aux exigences de Dieu, nous étions coupés de toute relation de ce Dieu qui est saint, qui est trois fois saint. Frères et sœurs, en réalité, quand on y pense bien, nous ne sommes pas mieux que Ruth. Et Ruth n'était pas pire que nous. Nous sommes tous des pécheurs destinés à subir le jugement de Dieu. Et pourtant, nous voyons, verset 8, qu'elle était accueillie comme faisant partie de la famille. Si dans un premier temps, Ruth était appelée la Moabite, remarquez de quelle façon Boaz va l'appeler au verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille. » Pas « Écoute la Moabite, la maudite. » « Écoute ma fille. » Boaz ne l'a pas accueilli comme une étrangère, mais comme un membre de sa famille. Moi, je ne peux pas dire aux gens que je rencontre sur la rue, aux jeunes filles qui ont l'âge de mes filles, je ne peux pas leur dire « Bonjour ma fille, comment tu t'appelles? » C'est pas ma fille, elle fait pas partie de ma famille. Et le terme ici, au niveau hébreu, il est très fort. Ma fille. Il l'appelle ma fille et non pas Ruth la Moabite. La loi l'a rejetée, mais Boaz l'a accueillie. Dans sa grâce, Moab l'a accueillie. Chers amis, est-ce que cette histoire ne correspond pas à la nôtre? Nous étions condamnés et sans espérance, mais par la grâce de Dieu, nous avons été acceptés dans le bien-aimé. Nous étions pécheurs, mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des saints. En Jésus-Christ. C'est pas extraordinaire, vous n'avez pas besoin d'attendre 100 ans pour être canonisé. Vous, à partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ, Eh bien, comme sauveur, vous êtes des saints. C'est ce que la parole dit. Vous êtes traités comme des saints dans toutes les épîtres de Paul. Et Dieu vous voit en Jésus-Christ comme étant des saints. C'est extraordinaire, ça. Nous étions des pécheurs, des enfants de colère, mais maintenant nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous étions sans espérance, mais maintenant nous avons une espérance bénie. Nous étions rejetés, mais maintenant nous avons été accueillis favorablement. Et nous faisons partie d'une nouvelle famille, la famille de Dieu. Amen. Non seulement vous êtes des enfants de Dieu, non seulement vous êtes des prêtres en Jésus-Christ, vous êtes des héritiers du royaume de Dieu. Et je le répète et je le dis, tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, il vous appartient. Vous êtes co-héritiers, nous dit la parole. Frères et sœurs, on ne peut pas s'imaginer à quoi correspond la grâce de Dieu. C'est difficile pour nous d'imaginer ce que Dieu en réserve pour nous. C'est difficile. Charles Baudelaire pouvait écrire un poème qui pouvait valoir des centaines de dollars. Nous appelons ça avoir du talent. Bill Gates peut signer son nom sur un bout de papier et acheter un gratte-ciel. Et nous appelons cela avoir du capital. Les frères Wright pouvaient prendre des pièces après de vieux vélos, du fil, du métal et de la toile et fabriquer un avion. Nous appelons ça être ingénieux. Michel-Ange pouvait prendre des pinceaux et peindre une œuvre sur le plafond de la chapelle Sixtine. Nous appelons cela de l'art. Un mécanicien peut changer une pièce défectueuse dans votre moteur d'auto, la remplacer par une nouvelle et faire paraître votre auto comme étant une neuve. Nous appelons ça du savoir-faire. Dieu peut prendre une loque humaine, un pécheur usé, détruit par le péché, le laver, le purifier dans le sang de Jésus-Christ que Jésus a versé sur la croix et faire de lui un fils de Dieu. Amen. Ouais. Nous appelons ça la grâce. Dieu a fait en sorte dans sa grâce que nous soyons maintenant enfants de Dieu. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple et qui sommes maintenant le peuple de Dieu, eh bien, nous qui étions privés de la pitié de Dieu et qui maintenant avons obtenu miséricorde, voilà ceux qui font partie du peuple de Dieu. Ceux qui ont une espérance vivante, ceux qui ont une espérance bénie et ceux qui participent aux promesses que Dieu nous a laissées dans sa parole. Ruth était une Moabite, mais pour Boaz, elle était sa fille. Elle avait été rejetée, mais maintenant elle était accueillie comme un membre de la famille. Au lieu de recevoir ce qu'elle méritait, elle a trouvé la grâce aux yeux de son bienfaiteur. Quelle grâce que celle qui vient de Dieu, frères et sœurs! Tourne avec moi dans Matthieu chapitre 9, verset 22. Moi, il y a des passages qui vous marquent dans la Bible, hein? Moi, celle de la femme qui a des pertes de sang, là, ça m'a interpellé depuis presque le début de ma conversion. On voit la grâce de Dieu dans ce passage. Rapidement, je lirai pas tout le texte. Rapidement, c'est une femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Le texte nous dit qu'elle est allée voir des médecins pour se faire soigner. Plus aller voir les médecins, imaginez-vous, j'espère que c'est pas comme ça ici en Belgique, mais plus elle allait voir les médecins, le texte nous dit, plus ça allait mal dans sa vie. Plus sa maladie empirait. Les médecins s'intéressent à elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'argent. Et tant aussi longtemps qu'elle avait de l'argent, les médecins se sont intéressés à elle. Elle n'a jamais pensé à Jésus. Jamais, jamais. Jamais. Elle est allée voir Jésus quand elle n'avait plus d'argent. Quand les médecins n'avaient rien à faire pour elle. Là, elle est allée voir Jésus. La grâce de Dieu, c'est qu'elle touche le vêtement, le bord du vêtement de Jésus, et la Bible nous dit qu'elle est guérie. Et ce qui est extraordinaire dans la grâce de Dieu, c'est que Jésus aurait pu se retourner et dire, « Hey, tu me prends pour qui? Pendant des années, tu es allé voir des médecins? Pendant des années, tu n'as même pas pensé à prier pour moi? Tu n'as même pas pensé à prier, à me demander de te guérir? Pendant des années, tu t'es fié sur ton argent pour penser que les gens, les médecins seraient capables de te soigner? » Rien de ça, quoi. Et là, maintenant qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tu viens me trouver. Hey, tu me prends pour quoi? Pour un moins rien? Tu me prends comme le dernier des parvenus? Si Jésus n'avait pas eu cet amour, cette compassion pour les perdus, c'est ce qu'il lui aurait dit. Mais Jésus, la Bible nous dit dans l'Évangile de Jean que Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, ni pour condamner le monde, mais pour sauver le monde, pour consoler les gens qui ont l'esprit abattu, pour consoler les affligés, nous dit-il dans Matthieu chapitre 5. Et là, il va se tourner. Qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 22. « Prends courage, ma fille. Sois encouragée par ta foi, car ta foi t'a guérie. Prends courage, ma fille. » C'est extraordinaire. Il l'appelle comme Boaz. « Ma fille, t'es pas une étrangère pour moi. Tu étais créé à l'image de Dieu. Tu es une brebis qui va réintégrer le troupeau. Prends courage, ma fille. Et ce matin, si vous faites partie du troupeau de Dieu, que vous êtes découragé, prenez courage. Allez voir le médecin par excellence. Allez voir Jésus-Christ. Il connaît vos problèmes. Il connaît vos problèmes psychologiques. Il connaît vos problèmes physiques. Il connaît vos problèmes spirituels. Et lui est capable de vous guérir. Vous pouvez encore le toucher aujourd'hui. Parce que dans sa grâce, Dieu, on peut encore atteindre Dieu dans sa grâce. Et Dieu va déverser encore une fois son amour. Le trône de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le trône de Dieu, c'est encore un trône où on peut trouver la grâce de Dieu, où on peut trouver le pardon de Dieu. Et on en profite en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'un jour, on le sait, quand Dieu mettra fin à toute chose, le trône de la grâce va être fermé, ce sera le trône du jugement qui va apparaître. Mais Jésus ici, ma fille, il n'est pas exclusif à Boaz. Jésus va le répéter dans l'Évangile de Matthieu. Il est repris dans Marc, il est repris dans Luc. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Cet amour filial, c'est pas, écoutez, c'est pas par hasard. Jésus ne s'est pas trompé quand il a dit ma fille. C'est la seule place dans tous les évangiles que Jésus utilise ce lien filial pour montrer que non seulement elle est sauvée physiquement, mais qu'elle est aussi sauvée spirituellement. Sozo, le verbe grec, sozo, qui signifie sauver spirituellement et sauver aussi physiquement. Ma fille, ta foi, il dit pas, c'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai sauvé. C'est ta foi en moi qui t'a permis d'être sauvé. C'est ta foi en moi qui t'a permis maintenant de faire partie de la famille de Dieu. Amen. Extraordinaire. Alors ce matin, si vous vivez des problèmes, venez devant le trône de la grâce de Dieu et confessez. Confessez à Dieu. Dis, Seigneur, je suis à peu près comme cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Ça fait des années, Seigneur, que je te parle pas. Ça fait des années que je vis sans toi. Seigneur, je me fie sur mes capacités, je me fie sur celles des hommes, je me fie sur la science pour avancer dans ma vie. Et ma vie, c'est une faillite, Seigneur. Faillite. Et là, je viens, là. Je vais te toucher ce matin, Seigneur. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui qui me cherche me trouve, dit le Seigneur. Et Dieu vous aime tous d'un amour égal. Gloire à Dieu pour ça. Oh, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'Évangile de Jean. La loi nous a été donnée par Moïse. La loi, elle condamnait. La loi, elle ne pouvait pas sauver. Elle faisait simplement mettre en lumière qu'on était pécheurs, il n'y avait pas de solution pour nous. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Jean, la grâce de Dieu. La loi nous montre qu'on est pécheurs. Jésus vient nous montrer comment recevoir le pardon de nos péchés. Jésus vient nous parler comment nos péchés peuvent être effacés. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. On devait faire un sacrifice une fois par année. Dans le Nouveau, Jésus accomplit le sacrifice parfait. Les péchés ne sont pas couverts, vos péchés sont effacés. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, dit Jean-Baptiste quand il voit venir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que si on avait la capacité ce matin de mettre sur cet écran, de projeter tous les péchés qu'on a commis cette semaine, de projeter sur cet écran toutes les mauvaises pensées qu'on a eues cette semaine. Je ne sais pas si on serait capable de se parler encore à la fin du culte. On a peut-être eu des mauvaises pensées contre nos frères et sœurs en Jésus-Christ. On a peut-être eu des mauvaises pensées contre ceux qui ne sont pas sauvés. Et gloire à Dieu, cet écran restera blanc ce matin, parce qu'on n'est pas ici pour juger ni condamner. Et gloire à Dieu, parce que tous vos péchés sont effacés par le sang de l'agneau. Amen. Dans Éphésiens 2, 7, Paul parle de la richesse extraordinaire de la grâce de Dieu par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. En Ruth, nous voyons les richesses de la grâce que Boaz lui a manifestées. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de tout ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous et ce que nous ne méritons pas. Combien trop souvent la grâce que Dieu nous a faite à travers la personne de Jésus-Christ nous dépasse? Dans sa grâce, frères et sœurs, versets 8 et 9, Dieu donne une nouvelle direction à notre vie. On marchait sur un chemin large qui mène nulle part. Sinon, à la perdition, nous dit la parole. Dieu, dans sa grâce, nous donne une nouvelle direction à notre vie. Il nous amène sur un chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous marchons sur ses pas. Nous marchons, pardon, dans ses pas. Notez ce que Boaz dit à Ruth au verset 8 et 9. « Ne va pas de l'année dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne et va auprès d'elle. » Il a reçu des instructions et des conseils de la part de Boaz. Avant de connaître Dieu, frères et sœurs, nous rassemblions tous, en tout cas, un grand nombre parmi nous, un bateau sur une mer mouvementée, sans capitaine ni compas. Mais lorsque nous avons été sauvés par grâce, un capitaine est monté à bord et nous sommes guidés par son compas divin. Dieu dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, et regardez la fin du passage, j'aurai les yeux fixés sur toi. » Extraordinaire, non? Moi, j'ai eu une enfance assez mouvementée. Hein? J'ai déjà raconté ma vie, je ne rentre pas dans les détails. Mais une image qui me vient à l'esprit, la seule fois on est allé faire on a fait une sortie avec mes deux frères. Moi, j'avais peut-être 14 ans. On est allé dans un parc. On a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais finalement, moi, je me pensais à l'abri de tout, quoi. Et mon père, il trouvait ça bizarre que moi, je puisse partir avec mes deux frères un soir, quoi. Alors, il nous a suivis en cachette. Et je peux vous dire que quand on est rentré à la maison, j'avais mal aux fesses, quoi. Hein? Ouais. Il nous a suivis. Il n'est pas intervenu. Hein? Il est revenu à la maison. Il nous a attendus. Il nous dit, vous venez d'où? Ah, t'es allé au parc. Ouais. Vous êtes amusé? Ouais. On avait fait des choses pas correctes. Et là, il nous les a sortis une par une. Et moi, ça me bénit parce que jamais j'aurais pensé que mon père, en dehors de la maison, aurait pu garder ses yeux fixés sur moi. Et cette journée-là, il l'a fait. Mais il l'a fait pour mon bien, quoi. Parce que connaissant mon cœur, si cette journée-là, je n'avais pas été interpellé, corrigé, j'aurais pris de l'assurance et je serais allé plus loin dans mon péché avec mes deux frères. Mais il m'a repris, il m'a corrigé, il m'a châtié parce qu'il m'aimait. Et avec Dieu, eh bien moi, je trouve que dans le psaume 32, le Seigneur, il dit, comme mon père, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Mon père, il m'enseignait des bonnes valeurs, quoi. Mon père et ma mère, ils m'enseignaient. Ils me conseillaient. Et là, ici, Dieu dit, écoute, même si je suis le créateur de l'univers, rappelle-toi que j'ai le regard fixé sur chacun de vous. Hey, je garde les yeux fixés sur toi. Nous lisons dans le livre des Proverbes 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il te montrera comment tu dois agir. Oui, Dieu, dans sa grâce, nous montre la direction à suivre dans nos vies à travers sa parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Verset 9. Dans sa grâce, Dieu va lui accorder aussi sa protection. Remarquez au verset 9. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Vous rappelez-vous Job et Satan? Satan qui vient demander l'autorisation à Dieu de pouvoir jouer dans la vie de Job. Et Dieu, finalement, va lui dire, écoute, tu peux tout faire à mon serviteur, sauf lui prendre sa vie. Job bénéficiait quand même de la protection de Dieu. Le diable ne pouvait rien faire sans l'autorisation de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, en tant qu'enfants de Dieu, on bénéficie toujours de la protection de Dieu. Et le diable ne peut pas vous faire autre chose que ce que Dieu lui permet de faire. Et le but dans lequel Dieu permet au diable de vous faire des choses, c'est pas dans le but de vous détruire, c'est dans le but de vous faire grandir, de vous bénir. Parce que Job n'a rien dit. Parce que Job a assumé l'épreuve dans laquelle il traversait. Lisez la fin du livre de Job. Dieu l'a béni en double. En double. Amen. On vit dans un monde tellement matérialiste. On vit dans un monde tellement qui nous vend du bien-être. Que quand il nous arrive quelque chose, même en tant que chrétien, on remet souvent en doute la bonté et la fidélité de Dieu. Mais Dieu dit ce matin, j'ai mon regard porté sur toi. J'ai les yeux fixés sur toi ce matin. Lors de la dernière guerre mondiale, un avion bombardier B-29 quitta l'île de Guam pour Kokura, au Japon. Lorsque l'avion arriva au-dessus de ses premières cibles, un gros nuage cacha tout à coup entièrement la cible, de telle sorte que le pilote ne pouvait pas lâcher ses bombes. Le pilote tourna pendant plusieurs minutes au-dessus de la cible et au bout de 55 minutes, il dut quitter les lieux parce qu'il lui restait juste assez de carburant pour pouvoir atteindre la deuxième cible sur laquelle il devait lâcher ses bombes. Quelques semaines plus tard, un officier reçut une information du service de renseignement qui lui fut froid dans le dos. Une semaine avant qu'on suspende le bombardement des milliers de prisonniers de guerre alliés qui se trouvaient prisonniers dans des camps de concentration japonais avaient été transférés à Kokura, cette ville qui avait été choisie pour être bombardée. La ville qu'on avait choisie de bombarder au départ était devenue un énorme camp de concentration des soldats alliés. Si le haut commandement avait maintenu l'ordre de bombarder cette ville, des milliers de prisonniers de guerre alliés seraient morts. Un gros nuage les avait arrêtés et la ville qui fut bombardée fut celle de Nagasaki. Et la bombe qui fut lâchée fut la deuxième bombe atomique. Il y a un Dieu dans le ciel qui protège ses enfants et dans sa grâce, nous bénéficions de sa protection. Je ne suis pas en train de vous dire que les Japonais sont mauvais puis que les Américains, les Européens, les Canadiens sont les meilleurs. On reste dans le contexte de cette dernière guerre mondiale. Dieu était là quand même pour protéger ses enfants. Dans sa grâce, verset 9, Dieu satisfait pleinement nos besoins. Remarquez encore une fois verset 9, « Et quand tu auras soif, va boire de l'eau dans les cruches que les serviteurs auront remplies. » Boaz lui dit qu'elle pouvait boire de l'eau qui était fournie par ses serviteurs lorsqu'elle aurait soif. Il dit, « Si tu as soif, tu peux satisfaire ta soif. » Frères et sœurs, la grâce abondante de Dieu a apporté une satisfaction à notre vie. Avant de connaître Christ, nous étions des gens qui travaillaient sous un soleil chaud et brûlant, sans une seule goutte d'eau, pour épancher notre soif. Mais dans sa grâce, Dieu a pourvu pour nous une eau pour épancher cette soif et satisfaire notre besoin. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront, sortiront de son cœur. Il parle du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'aura plus jamais soif. Amen. Ouais. L'essayiste Charles Lamb dit un jour, je faisais les 100 pas, pensant que j'étais heureux, tout en sachant que je ne l'étais pas. Pour beaucoup de gens, une vie satisfaite est aussi rare que de rencontrer un aigle d'Amérique. La génération des baby boomers, dont je fais partie, a vu son taux de suicide exploser au cours des 10 dernières années aux États-Unis. Chaque jour, 105 personnes se suicident aux États-Unis, dans une période caractérisée par la plus grave récession depuis les années 30. Le taux de suicide a augmenté de 28% chez les 35 à 64, surpassant ainsi les accidents de la route comme cause de décès en 2012, selon les statistiques du gouvernement. Un couple a écrit ces quelques mots parus dans un journal national. « Nous avons une belle maison, de beaux meubles, une nouvelle voiture et de l'argent en banque. Nos deux fils ont terminé leurs études, ils sont mariés et heureux. Nous avons chacun un travail bien rémunéré et nos deux revenus mis ensemble nous permettent de vivre confortablement. Pourquoi alors écrivons-nous cette lettre à votre journal? » Parce que nous réalisons soudainement que nos vies sont vides et que nous n'allons nulle part. Sommes-nous différents des autres ou est-ce que ceci arrive à tous les couples entre 60 et 65 ans? Harry Truman avait cru dans un premier temps qu'il avait perdu les élections comme candidat à la présidence américaine en 1945. Alors, c'est lui qui a donné l'ordre de lâcher les deux bombes. On pouvait lire à la une des journaux, Dewey a battu Truman. Le lendemain, lorsque le décompte des votes a été fait pendant la nuit, le lendemain, lorsque tous les votes furent comptés, Truman avait battu Dewey. Il écrivait à sa mère ces quelques mots. « J'avais hâte de me rendre à la Maison-Blanche pour féliciter le nouveau président. Et lorsque je me suis retrouvé à la Maison-Blanche, c'était pour apprendre que c'était moi qui étais devenu le nouveau président des États-Unis. » Frères et sœurs, Ruth avait quitté Moab avec rien. Arrivée à Bethléem, elle a fait confiance à Dieu. Et lorsqu'elle s'est rendue dans le champ de Boaz, elle a découvert qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Expérimenter la grâce de Dieu, c'est un, trouver une nouvelle direction pour notre vie. Deux, c'est bénéficier de la protection de Dieu au quotidien, et c'est recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et frères et sœurs, Dieu utilise même les païens pour bénir ses enfants. Ray Kroc, le fondateur de McDonald's aux États-Unis, lorsqu'il est mort, ils n'avaient pas d'enfants. Il a donné 500 millions de dollars à l'armée du salut. Lorsque sa femme est morte, elle n'avait pas eu d'enfant. Elle a laissé 1,5 milliard de dollars à l'armée du salut aux États-Unis. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Je ne sais pas si Ray Kroc était chrétien. Je ne sais pas si sa femme était chrétienne. Mes frères et sœurs, Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, l'or et l'argent m'appartiennent, tout lui appartient. Il peut distribuer comme il veut, à qui il veut. Tout lui appartient. La vieille Ruth ne savait pas où elle pourrait trouver de la nourriture pour nourrir son corps, et le jour suivant, elle voit sa vie être bénie au-delà de toute compréhension. Remarquez jusqu'à quel point son cœur est touché par cette grâce qui s'est manifestée dans sa vie. Verset 10. Elle tombe sur sa face et se prosterne contre terre et lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » C'est plus qu'elle ne pouvait le croire. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'était « Pourquoi? Pourquoi? » Et frère, ce matin, on pourrait se poser la même question. « Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi je suis sauvé que le voisin ne l'est pas? Pourquoi je suis sauvé qu'en Asie, les Chinois ne le sont pas? Pourquoi je suis sauvé que les Indiens en Inde ne le sont pas? Pourquoi moi? Pourquoi, Seigneur, t'es-tu intéressé à moi? » C'est une question qu'on peut se poser comme Ruth s'est posée. Pourquoi moi, cette étrangère, qui appartient à un peuple maudit, que tu as rayé de la carte? Pourquoi moi? Pourquoi vous ce matin, frères et sœurs? Pourquoi vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce salut? Rien. La question qu'on peut se poser, la deuxième, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que je fais avec le salut que j'ai reçu en Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais avec l'évangile de grâce que j'ai entendu, qui m'a permis de passer des ténèbres à la lumière? Qu'est-ce que je fais avec ce message de grâce? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que je le communique aux autres? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi, dit Ruth? Je pense que la plus grande marque de reconnaissance que nous pouvons manifester à l'égard de Dieu, c'est le remercier pour ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Notre cœur doit déborder de reconnaissance lorsque nous pensons à quel point Dieu nous a aimés, au point de faire de nous ses enfants, et tout cela parce que Dieu a eu pitié de nous. Pitié de nous. Paul nous rappelle que nous aussi, nous étions à une certaine époque, loin de Dieu, nous étions étrangers. Éphésiens chapitre 2, verset 12, il dit, c'est son texte, « Nous étions étrangers, nous n'appartenions pas au peuple choisi de Dieu. Nous étions en dehors des alliances fondées sur la promesse faite par Dieu à son peuple. Nous vivions dans le monde sans espérance et sans Dieu. » Voilà pourquoi le monde crée des ambitions chez les gens. Les gens ont besoin d'avoir des ambitions dans leur vie pour vivre et continuer à vivre. Moi, j'ambitionne rien. La seule ambition que j'ai, c'est de marcher comme Dieu me demande de marcher en tant que chrétien. Les gens du monde ont besoin de ça. T'as un écran de TV comme ça, on va t'en vendre une autre comme ça, quoi. On parlait avec notre soeur à la maison. Au Québec, ils sont rendus, ils ont des home cinéma dans les sous-sols, quoi. Les chaises avec les écouteurs, les coudes et tout. Vous avez des gros écrans géants dans le sous-sol, quoi. Les gens s'ennuient à mourir, quoi. Les Québécois, ils peuvent se payer presque tout, quoi. On me racontait que la moyenne des salaires, c'est 29 $ de l'heure, quoi. Alors, vous imaginez, quand il y en a deux qui travaillent, ça fait à peu près 60 $ de l'heure. Ça roule, hein? Fois 40 heures, ça fait combien? Ça fait 2 400 par semaine, quoi. Ça roule, hein? Les gens ont tout. Et parmi la génération des baby boomers, ceux qui ont tout. Taux de suicide est effarant au Québec. Parmi les adolescents, on a un des plus hauts taux au monde de suicide parmi nos adolescents. Les gens pensent qu'ils ont tout, mais en dehors de Jésus-Christ, ils n'ont rien parce qu'ils sont sans espérance. Jean, dans chapitre 1, verset 16, dans son évangile, dit, « Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu en recevant de lui bénédiction sur bénédiction. » Et nous pouvons affirmer ce matin, frères et sœurs, en terminant, que la plus grande de toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur nous, c'est son salut. Par le sacrifice de Christ, nous ne sommes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais nous sommes concitoyens, des membres du peuple de Dieu, et nous appartenons à la famille de Dieu. Que pouvons-nous dire face à cela? Rien d'autre que loué soit Dieu pour son don incomparable et merveilleux. Loué soit Dieu pour ce don, parce que c'est un don. C'est un don. Et si on avait dû payer notre salut, je pense que personne sur la terre aurait été en mesure de se ramasser suffisamment d'argent dans sa vie pour se payer son salut. À combien évaluons-nous la vie du Fils de Dieu sacrifié sur la croix? Oui, il en est ainsi. Dieu nous a montré à quel point il nous aimait alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est donc par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Votre foi, frères et sœurs, est un premier bienfait de sa grâce. Le salut que vous obtenez par la foi en est un autre. Voilà pourquoi l'évangile que nous annonçons est aussi appelé l'évangile de grâce. Le don que Dieu fait dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est pas la foi, c'est salut. La foi, c'est le moyen pour arriver au salut.
Dites amen à ça.
Mais méditez-le comme faut, 2-8. Il y en a qui sont convaincus que le don qu'on reçoit de Dieu, c'est la foi. Non? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, quand on l'a, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous amener à passer des ténèbres à la lumière, pour nous amener au salut. Mais la foi est le moyen. En d'autres mots, cela signifie que quand un homme, sans accomplir de travail, met simplement sa confiance en Dieu, qui juge favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste, sans tenir compte de ses œuvres. « Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas ses péchés. » Frères et sœurs, versets 11 et 12, rapidement, Boaz lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Hébreux chapitre 11, verset 6, « Dieu récompense celui qui le cherche. » Amen. Amen. Dieu récompense celui qui le cherche. Mais il rajoute quelque chose aussi. Il faut croire que Dieu existe. Ça, c'est un coup dur pour les athées, ça. Ouais. Tu veux recevoir une récompense? Tu cherches Dieu? Tu vas avoir ta récompense? Tu dois croire que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 6. Et finalement, verset 13. Son cœur débordait d'humilité. Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, c'est-à-dire tu m'as encouragé. Seigneur, tu as changé ma vie et tu as parlé au cœur de ta servante et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. J'appartenais pas à ta famille. Frères et sœurs, on n'appartenait pas à la famille de Dieu. Pourtant, Dieu, nous qui étions des étrangers, nous a incorporés dans sa famille. » C'est ce que Ruth dit ici. Ce qui débordait de son cœur, c'était de plaire à Boaz parce qu'elle avait trouvé grâce à ses yeux. Et ce qui devrait déborder dans notre cœur, c'est de chercher à plaire à Dieu, parce qu'on a trouvé grâce à ses yeux. Lorsque nous saisissons en quoi consiste la grâce de Dieu, nous réalisons jusqu'à quel point nous sommes en dette envers lui et combien nous lui sommes redevables. Frères et sœurs, que nos cœurs restent attachés à Dieu, qui nous a fait grâce et nous a accordé le salut en Jésus-Christ. Parce qu'un jour, comme un fil qui se brise, votre vie sur terre finira. Mais une autre au ciel vous est promise, et personne ne peut vous l'ôter. Alors vous verrez face à face celui qui vous a sauvé par grâce. Amen. Prions. Et Seigneur notre Dieu, tu connais nos cœurs ce matin, Seigneur, et c'est vrai que nous sommes des auditeurs oublieux. C'est vrai, Seigneur, que tu as besoin de nous interpeller jour après jour à travers ta parole, à travers des expériences de vie, à travers des épreuves. Parce que, Seigneur, comme la femme qui a eu des pertes de sang pendant 12 ans, il arrive que dans une journée, Seigneur, tu n'occupes pas la première place, la place que tu dois occuper. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que tu n'occupes pas toujours la première place dans ma vie. Seigneur, agis dans mon cœur afin que je puisse te ressembler davantage. Agis dans mon cœur, Seigneur, afin que tu puisses me modeler, me façonner à l'image de Jésus-Christ. Bénis mes frères et sœurs ici présents ce matin. Visite-les tous et chacun. Et que tu puisses leur faire du bien. Que tu puisses leur accorder bénédiction sur bénédiction. Parce qu'ils sont maintenant membres de ta famille. Ils sont maintenant héritiers du royaume, concitoyens du royaume des cieux. Merci encore une fois pour ton amour et pour ta parole. Merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique pour terminer ce culte.